Salut à vous qui mettez toujours un point d'honneur à ménager la chèvre et le chou, et puis salut à vous qui avez bien conscience que ça va forcément finir par mal tourner cette histoire. Aujourd'hui, on s'attaque à la monarchie de Juillet, dont on a juste vu les tout premiers pas dans la dernière vidéo de la série. La monarchie de Juillet, c'est un peu la période mal aimée du 19e siècle, il y a assez peu de bouquins sur le sujet vraiment spécialisés, à tel point en fait que les sources les plus précises que j'ai trouvées dans mes bouquins, c'était plutôt des bouquins plus généralistes sur le 19e qui m'ont apporté des choses intéressantes à vous raconter. Dans tous les cas, comme on reste sur de la série de vulgarisation, c'est pas forcément un problème. Ici, dans ce premier épisode sur la période, je vais vous parler de ce qui va globalement de 1830 à 1840, qui sont, on va dire, les années où le régime fait face d'abord à l'adversité, puis se stabilise, et puis peut-être même se stabilise un peu trop. Alors reprenons là où je vous avais laissé la dernière fois. La révolution vient d'avoir lieu, on amende un petit peu la charte pour créer un gouvernement plus parlementaire, et le paysage politique, en tout cas dans la sphère vraiment qui adhère au régime, est divisé entre ce qu'on appelle la résistance, qui considère que la révolution là, a atteint son but et qu'il faut tout arrêter maintenant, et puis le mouvement qui voudrait pousser les choses un peu plus loin. Simplement, cette révolution, elle ne satisfait pas tout le monde. Déjà, évidemment, il y a les légitimistes, hein, les partisans de Charles X, qui ne sont pas jouesses du tout, évidemment, mais surtout, il y a des républicains, et puis des forces à gauche qui voudraient aller vraiment là beaucoup plus loin, et qui là aussi ne sont pas forcément prêts à se contenter du régime tel qu'il est, même s'ils n'ont pas vraiment la puissance de frappe pour instaurer une république. Donc on est dans un état un petit peu second, là, où il va falloir maintenant établir le nouveau régime. Alors, au début se pose un gouvernement qui est mélange des gens venus du mouvement et de la résistance, cette histoire, ça va forcément pas bien tourner, et puis on a aussi de l'agitation un peu continue dans le pays, alors parfois ça prend des formes d'agitation anticléricale, je vous avais dit que la révolution de 1830 est une révolution qui est fondamentalement anticléricale, parfois ça va être de l'agitation républicaine, parfois ça va être de l'agitation pour des questions sociales, on va avoir aussi une certaine crise politique qui tourne autour des ministres de Charles X qui ont été arrêtés, et dont la population parisienne voudrait la tête, sauf que finalement ils sont juste condamnés à perpétuité, ce qui est déjà pas mal pour d'anciens ministres, hein, mais ça suffit pas pour la population qui du coup s'énerve. Et donc sur ce fond de crise, et bien finalement, arrivé au tout début du mois de novembre 1830, le gouvernement d'Union lâche, la droite décide de s'en retirer, et Louis-Philippe va laisser le pouvoir à un banquier, Jacques Lafitte, qui est issu du mouvement, et qui aspire à gouverner en essayant de répondre un petit peu aux aspirations de la gauche, sans pour autant aller trop loin, hein, faut pas déconner, on n'est pas non plus chez un communiste, mais il veut tendre un petit peu vers cette gauche-là, il incarne vraiment la philosophie du mouvement, et d'un certain côté, il veut tendre vers elle pour mieux la calmer. Pour Louis-Philippe, cette solution Lafitte, elle a un double avantage, déjà ça peut être un moyen de calmer les choses, et puis accessoirement, ça peut être un moyen aussi de montrer que le mouvement, finalement, ça marche pas, et que du coup, ben, on va pouvoir passer à de la vraie droite. C'est d'ailleurs ce qui va se passer, parce qu'en fait, Lafitte se heurte très vite à beaucoup de problèmes, déjà il n'arrive pas à calmer l'agitation, et du coup, tout le régime se tend, et je vous rappelle que, à l'époque, comme on est sur du suffrage censitaire, ben, ce qu'il faut satisfaire majoritairement, c'est des gens qui tiennent quand même à ce qu'il y ait un peu d'ordre, ce genre de choses, du coup, très vite, il se retrouve avec une chambre complètement montée contre lui, il n'arrive pas à gérer les affaires courantes, et puis se rajoutent aussi les questions étrangères. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en 1830, il y a des révolutions ailleurs aussi, par exemple en Belgique, par exemple aussi, il y a les Polonais qui s'insurgent, et les libéraux français, la gauche, voudraient aller au secours des Belges, des Polonais, il y a aussi des choses qui se passent en Italie, sauf que la droite, elle, ne veut pas du tout. Pourquoi? Ben principalement parce que la révolution qui vient d'avoir lieu, là, en France, elle fait un peu trembler dans les cours étrangères, parce qu'en général, quand la France fait la révolution, après ça tourne à la guerre. Et du coup, les cours étrangères regardent ça en se disant « Merde, s'ils nous refont le coup de 92, s'ils nous refont le coup de 1815, ça va pas être cool !» Et donc le gros enjeu pour Louis-Philippe et les autres, c'est de dire non, vous inquiétez pas, avec moi c'est bon, là, tout est calmé, on va pas repartir sur des guerres révolutionnaires, tout est bon. Donc la droite joue la prudence, Louis-Philippe joue la prudence, et Lafitte, qui éventuellement voudrait plutôt tendre vers la gauche, ne peut pas. Donc finalement, dès le mois de mars 1831, cette expérience du mouvement est avortée, Lafitte est poussé à la démission, et puis c'est la dernière fois que le mouvement va être à la tête du gouvernement pendant toute la monarchie de Juillet. Donc voilà, 18 ans de régime, la gauche du régime a été à la tête du pouvoir pendant 3 mois. Donc désormais, tout va se tourner sur la résistance, on va être vraiment sur une politique beaucoup plus conservatrice. Le nouveau héros de cette résistance, à partir de mars 1830, c'est Casimir Perier. Casimir Perier, lui aussi, c'est quelqu'un qui vient de cette bonne bourgeoisie, d'une grande dynastie bourgeoise d'ailleurs, qui va faire des émules ensuite, hein, puisque ses successeurs vont d'ailleurs prendre son prénom dans leur nom pour lui rendre hommage, hein, et donc va devenir la famille Casimir Perier, et qui va donner un président de la République éphémère notamment. Et donc Casimir Perier est une grande figure de ce mouvement de la résistance, c'est une grande figure du conservatisme et de l'ordre, hein, il garantit vraiment, voilà, maintenant ça va être l'ordre, la prudence, on va y aller mollo. Donc comme on va le revoir tout à l'heure, il va réprimer à tour de bras tout ce qui se soulève, il va reprendre en main autant que possible l'administration, et plus largement, il va légiférer dans ce sens, c'est-à-dire que par exemple, légiférer sur le fait que maintenant, quand il y a une insurrection, la troupe a le droit de faire 3 sommations, et puis après elle peut tirer. Allez hop, ça clarifie un petit peu les choses. D'autre part, il va réformer la garde nationale. Garde nationale qui va vraiment se transformer en milice bourgeoise, où on écarte Lafayette au passage, qui devenait un peu gênant. Alors, comment on la transforme en milice bourgeoise? Principalement par le fait que pour y entrer, il faut pouvoir entretenir son équipement. C'est la méthode un peu aussi qu'on retrouvait dans la Grèce antique, d'ailleurs, et forcément, du coup, ça limite l'appartenance populaire à la garde nationale. Plus largement, il faut dire aussi que le gouvernement Casimir Perier va poser les bases du régime. Déjà, il va jouer sur la loi électorale, en abaissant le cens, on passe de 300 à 200 francs pour être électeur, et on passe de 1000 francs à 500 pour être élu. Ce qui change beaucoup de choses. Bon, déjà, ça double l'électorat, alors vous inquiétez pas, on reste sur un électorat très très minoritaire, hein, par rapport à la population, on est sur un peu moins de 200 000 électeurs. Mais enfin, c'est déjà une évolution, on a doublé le nombre d'électeurs. Et puis, ça rend possible aussi l'élection de petits notables, qui sont moins fortunés que ceux qui étaient dans les chambres jusque-là. Donc il y a une relative libéralisation, on baisse l'âge aussi d'électeurs et d'éligibles. Donc ça permet de rajeunir un peu tout ça. On marginalise la Chambre des Pairs, donc là aussi on a un régime qui vraiment tourne au parlementarisme électoral. Et puis à propos des élections, on légifère aussi sur les élections aux conseils municipaux. Et là pour le coup, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe, mais ce qui se passe c'est qu'on considère qu'on peut pas juste fixer un seuil de fortune nécessaire pour voter, qui serait universel, parce que ça veut dire que dans les campagnes par exemple, il y a des endroits où personne pourrait voter. Donc on décide plutôt de faire en fonction du pourcentage et de la population des communes, ce qui signifie que dans les plus petites communes, on décide que c'est les 10% les plus riches qui vont pouvoir voter. Mais ces 10% les plus riches de Trifouille-les-Oies, bah ils sont forcément beaucoup 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 plus pauvres que des électeurs lambda. Et donc ça élargit grandement le suffrage, puisque là, au lieu de parler de centaines de milliers d'électeurs, pour les élections des conseils municipaux, on parle de millions d'électeurs. Et donc, comme on est autour, je crois, de 5 millions d'électeurs, eh ben mine de rien, ça veut dire que, comme l'a dit l'historien Maurice Agulon, la politique descend vers les masses. Alors ça crée des élites locales, évidemment, parce que c'est quand même les plus aisés du coin qui votent, mais enfin ça peut être des paysans aisés, des choses comme ça, et du coup, ben ça les politise. Et puis surtout, si on passe de quelques centaines de milliers d'électeurs pour les députés à plusieurs millions d'électeurs pour les conseils municipaux, eh ben ça signifie qu'il y a ces plusieurs millions d'électeurs qui s'initient à la politique et qui vont finir forcément par demander le droit aussi à voter ailleurs, et en tout cas qui vont avoir appris petit à petit à maîtriser ces gestes de l'élection. Donc il faut pas négliger cet héritage-là, hein, du début de la monarchie de Juillet. Globalement donc, toute l'année 1831 et puis début 1832, Casimir Perier pose les bases de ce qui va être la monarchie de Juillet, un régime conservateur, mais malgré tout, qui favorise un certain pluralisme politique. D'ailleurs, les élections qui ont lieu à ce moment-là montrent qu'il y a une majorité qui est en faveur de la résistance, mais enfin, il y a quand même une bonne partie de la Chambre qui est aussi soutien plutôt du mouvement, et donc il y a quand même un pluralisme politique là-dedans. Il pose les bases, et puis on peut penser qu'il aurait eu une très bonne carrière sous le régime. Sauf que, petit problème, en 1832, il y a une grosse épidémie de choléra qui frappe la France, et puis la famille royale fait le job vraiment, là, va au chevet des malades, même les opposants légitimistes le reconnaissent, et Casimir Perier aussi y va, sauf que lui, bah, pas de bol, il chope le choléra et il en meurt. Donc on se retrouve avec une période où le gouvernement est beaucoup plus instable, reste d'ailleurs un temps entre les mains du roi, puis ensuite on va le voir passer d'abord entre quelques maréchaux, et puis finalement on va voir très vite monopoliser le pouvoir entre quelques acteurs importants, qui sont Adolphe Thiers, qui sont le duc de Breuil, qu'on écrit Bruglie, me demandez pas pourquoi, qui sont aussi Molé, et surtout François Guizot. Ce sont des gens qui tous appartiennent à différentes tendances de la droite, et qui globalement vont se relayer au pouvoir, parce que même si les ministères vont beaucoup changer, j'y reviendrai, ben, la composition ensuite reste souvent quand même assez similaire, et donc ces gens vont beaucoup monopoliser le pouvoir et guider le régime dans la direction où ils l'entendent. Ceci étant, avant de vous parler de la direction que va prendre le régime, il faut aussi que je vous parle des oppositions qu'il subit, parce qu'elles sont particulièrement fortes au tout début. Alors déjà, il y a une opposition sociale. On est dans une période de crise, et donc il y a des mouvements d'insurrection vraiment sur des questions sociales, le plus important étant celui des Canuts lyonnais en 1831. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là? Eh bien en fait, à Lyon, on a un gros pôle d'industrie textile, d'industrie de la soie, et on a ces fameux canuts, notamment autour de quartiers comme la Croix-Rousse, et donc il s'agit de petits entrepreneurs indépendants qui sont sollicités par ce qu'on appelle des marchands-fabricants. Le marchand-fabricant, c'est quelqu'un qui fournit de la matière première à ces entrepreneurs, à ces canuts, et qui récupère ensuite le produit fini pour le vendre, et qui paye pour ce produit fini. Donc en quelque sorte, on a un système qui se rapprocherait un petit peu du système de l'auto-entreprise, de l'ubérisation, si on veut, c'est-à-dire que c'est un système qui est très flexible pour les patrons, pour ces marchands-fabricants, qui, finalement, sollicitent autant d'ouvriers qu'ils en ont besoin, selon la demande, et puis qui autrement, bah, peuvent ou bien baisser les prix, ou bien décider d'arrêter de solliciter. Il n'y a pas de rapport de salariat, il n'y a pas toutes ces rigidités, entre guillemets, mais qui assurent une sécurité aux ouvriers. Entre la liberté des patrons et la sécurité des ouvriers, on a choisi la liberté des patrons. Or, dans cette période de crise, ben évidemment, les ouvriers lyonnais demandent à ce qu'on instaure un tarif. Ce tarif, ce serait en quelque sorte un salaire minimum. Évidemment, les patrons ne l'entendent pas de cette oreille. Et l'État qui doit arbitrer, étant en faveur d'un libéralisme relativement débridé, refuse l'interventionnisme, refuse le contrôle des prix, et donc les canuts finissent par s'insurger. Cette insurrection prend de grandes proportions, pendant quelques temps même ils tiennent Lyon, et puis finalement ils sont réprimés, parce que le gouvernement ne peut tolérer cette expérience différente qui est une infraction évidente au libéralisme économique qu'il prône. Et ça va jouer un rôle dans les mentalités à gauche, parce que cette répression va quand même choquer, et surtout parce que les opposants de gauche vont se rendre compte que là, il y a un enjeu, que la lutte à gauche ne peut pas être que politique, qu'elle doit aussi prendre en compte le social et l'économique. Et donc ils vont beaucoup se pencher sur ces questions, même s'ils vont pas tous y apporter les mêmes réponses, et pas tous des réponses aussi radicales, évidemment. Mais en tout cas, ils vont comprendre que la question sociale, c'est une question qu'il faut prendre en compte. Autre facteur d'agitation à gauche, bah, ce sont les républicains. Les républicains aspirent encore à leur grand soir, d'une certaine manière, et ce grand soir va notamment venir en juillet 1832, dans un épisode qui a notamment été immortalisé par Victor Hugo dans Les Misérables, hein, vous connaissez tous le personnage de Gavroche, eh bien ce sont des émeutes qui se tiennent début juin 1832, à la suite des funérailles du général Lamarque, un ancien héros des Cent-Jours notamment, ce qui rappelle qu'à l'époque, bonapartisme et républicain, c'est quand même un petit peu mélangé tout ça dans la tête des gens. En tout cas, dans la foulée de ses funérailles, il y a des barricades qui sont dressées, il y a une insurrection républicaine, et puis elle est réprimée dans le sang, il y a pas mal de morts, hein. Et puis, la troupe n'a pas suivi l'insurrection, globalement la bourgeoisie non plus, et donc, ce genre d'insurrection, quand elle n'est pas suivie, ça foire en fait. Donc là, on a un premier échec, globalement le mouvement républicain est déjà bien assommé, il va y avoir d'autres tentatives ensuite, notamment à Lyon. En 1834, on va avoir un nouveau soulèvement à Paris, qui va se solder notamment par le célèbre massacre de la rue Transnonain. En gros, y a un coup de feu qui est parti d'un immeuble, et du coup la troupe massacre tout le monde dans l'immeuble, enfants, vieux, etc. Donc ça aussi, ça a beaucoup tourné dans la presse, donné lieu à beaucoup de dessins de presse, à beaucoup de dénonciations par des auteurs en vue, parce qu'on est assez choqué par ça. Mais enfin, globalement, le mouvement républicain, là, dans ces années-là, est bien assommé, bien décapité aussi, et particulièrement réprimé. Et puis, il y a l'autre côté, il y a le côté légitimiste, et là, c'est pas triste non plus. Déjà, autour de Charles X, on a choisi l'exil à l'étranger. Pour les autres, se pose la question de savoir si on s'engage dans le jeu politique ou pas. Est-ce qu'on participe à la vie parlementaire, et dans ce cas, on légitime le nouveau régime, ou est-ce qu'on s'abstient totalement? On se retire, mais dans ce cas, on se résigne à l'impuissance. Globalement, la plupart des légitimistes vont choisir cette option-là, l'impuissance. Beaucoup vont se retirer dans leur propriété, dans leur château, et laisser tomber. Et puis, y a des divisions. Déjà parce que, par exemple, je vous avais dit dans le précédent épisode que Charles X avait abdiqué, puis que finalement son abdication avait été balayée, et donc se pose la question pour les légitimistes. Est-ce que Charles X a vraiment abdiqué? Et dans ce cas, on se reporte sur son petit-fils, le fameux Henri V. Ou est-ce que son abdication est nulle et non avenue, et dans ce cas, c'est lui le taulier. Et il y a des désaccords. Et puis finalement, va s'ériger surtout la figure de la duchesse de Berry, donc la mère du petit Henri V, la veuve du duc de Berry dont je vous avais parlé de l'assassinat, et elle, pour le coup, que certains qualifient de seul homme de la famille, va partir en France, va tenter de soulever notamment la Vendée. Et puis, alors elle soulève des anciens acteurs des guerres de Vendée, ou leurs descendants parfois, ça commence, et puis ça prend pas, ça marche pas, le soulèvement reste localisé, il est réprimé, elle doit se planquer pendant un temps, puis elle est arrêtée. Puis alors là, c'est la fin pour elle, parce qu'en plus, quand elle est emprisonnée, on se rend compte qu'elle est enceinte. Alors ça peut paraître anodin comme ça, sauf que je vous rappelle que c'était la figure de la mère dévouée, toute dévouée à la cause royaliste de son fils, toute dévouée à l'héritage de son défunt mari, et là, on se rend compte qu'en fait, elle est avec quelqu'un, qu'il y a un enfant, et puis d'ailleurs, du coup, est-ce que ça voudrait pas dire que le petit Henri V, qui serait pas un peu illégitime sur les bords? Qui sait? Et donc, ça grille totalement sa réputation chez les légitimistes, qui vont du coup passer leur temps à s'engueuler pour savoir est-ce qu'il faut soutenir le petit prétendant, est-ce qu'il faut soutenir Charles X, puis son fils, le supposé Louis XIX. Ça va pas mal s'engueuler, et tout ça finalement, dans un mouchoir de poche, où ça n'intéresse pas grand monde, parce qu'ils sont complètement impuissants. Donc, c'est intéressant d'ailleurs de voir que le soulèvement de la duchesse de Berry se passe aussi à l'été 1832, et donc à cette période-là, coup sur coup, un soulèvement républicain, un soulèvement légitimiste sont assommés, et que globalement le pouvoir reprend la main. Il y a un autre danger, c'est le danger bonapartiste, qui est relativement secondaire, parce qu'en 32 là aussi, l'Aiglon, le fils de Napoléon, meurt. Et donc ça veut dire que l'hypothèse Napoléon II est écartée. Alors il y a l'hypothèse Napoléon III qui va apparaître, avec le fameux Louis-Napoléon Bonaparte, un neveu, dont parfois les mauvaises langues vont douter de la légitimité pour justement essayer de le décrédibiliser, mais le fait est qu'il travaille à sa légende. Il va tenter plusieurs coups d'État, c'est vraiment là, à l'époque, une sorte d'aventurier qui tente des trucs, notamment en 1840, il va être emprisonné d'ailleurs au fort de Ham, puis s'évader de façon un peu rocambolesque. Alors si je vous parle de ça, c'est pas parce qu'il est un grand danger pour la monarchie de Juillet, mais c'est pour vous montrer que le personnage débarque pas de nulle part en 1848, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand j'évoquerai un jour peut-être la Deuxième République, mais en tout cas, n'oubliez pas ça, il est dans le paysage. Et puis, il y a un dernier danger, c'est les attentats. Parce que Louis-Philippe va être la cible de très nombreuses tentatives d'assassinat. Et c'est pas anodin non plus. Quand je dis très nombreuses, on en compte au moins une dizaine, et je pense même plus. Alors il y en a certaines qui viennent de motifs plutôt personnels, de rancœur, de choses comme ça, mais il y en a aussi qui ont un vrai fond politique derrière, notamment l'attentat de Fieschi en 1835, qui est là d'inspiration républicaine, et c'est un attentat à la machine infernale. Alors, il y aurait monté une espèce d'ensemble de fusils pour faire beaucoup de dégâts, et le fait est que ça en fait beaucoup, puisqu'il y a 18 morts, dont un ancien maréchal chef du gouvernement, donc c'est pas rien. 18 morts, des dizaines de blessés, et par contre Louis-Philippe y échappe, presque miraculeusement. Donc sa popularité remonte en flèche, ce qui est globalement une leçon assez universelle dans l'histoire, hein. Globalement quand vous tentez d'assassiner une personnalité politique, vous lui rendez service. Vous en faites un martyr, et généralement ça sert sa com. Donc là, lui, il s'en sert évidemment, et ça va entraîner aussi un durcissement du régime très net, puisque, à la faveur de cet attentat, ensuite on va avoir ce qu'on appelle les lois de septembre 1835, qui sont des lois très dures, qui interdisent notamment de se dire républicain, puisque si vous dites républicain, vous contestez l'existence du régime, donc vous êtes séditieux, donc vous méritez la censure, voire l'emprisonnement. Donc on a là un régime qui, face aux oppositions, a une réponse très forte. Alors il faut revenir maintenant sur la philosophie générale du régime qu'on pourrait qualifier de libéralisme conservateur. C'est-à-dire que, effectivement, si on le compare à la Restauration, le régime est beaucoup plus libéral. Déjà, il revient sur tout un certain nombre des lois religieuses qui vraiment avaient sclérosé un petit peu la fin de la Restauration. Il ouvre aussi pas mal la liberté de la presse, ce qui donne lieu à beaucoup de caricatures. Vous connaissez probablement les fameuses poires pour représenter Louis-Philippe, qui deviennent un symbole très répandu. Donc ça, c'est plutôt au début du régime, parce que très vite, comme je vous l'ai dit, il se durcit, et du coup on va recommencer à s'en prendre à certaines formes de contestation, et notamment à limiter les rassemblements politiques, ce genre de choses. Donc libéral, mais pas trop quand même. Parce que globalement, on a un régime qui est dominé par la bonne bourgeoisie, mais aussi par une partie de la noblesse qui s'y rallie, hein, tout ça se fusionne bien, et qui aspire à la prospérité économique, et au calme. Il faut surtout pas qu'on mette en cause la propriété, et globalement, cet essor économique. On a cette philosophie-là, à l'époque, que l'essor économique va améliorer le sort de tout le monde, finalement. Bon, et puis il y en a peut-être dont ça améliorera un peu plus le sort que d'autres, mais a priori, si ça s'améliore, ça s'améliorera quand même pour tout le monde. Et donc on est vraiment dans cette idée-là qu'il faut pousser tout le monde vers le haut, sans pour autant remettre en cause que ce soit les différences sociales, que ce soit les différences de classe, finalement, hein, ça doit pas être remis en cause, parce qu'on considère qu'il y a des hommes plus méritants que d'autres. Simplement, il faut permettre à ce que ces hommes méritants aient un bon contexte pour progresser. Et oui, je parle bien d'hommes, parce que forcément, les femmes sont marginalisées dans ce régime-là, et globalement, la plupart des gens les marginalisent, sauf dans les courants féministes dont j'aurai l'occasion de reparler dans une autre vidéo. Alors, ça va tourner beaucoup, notamment autour de l'éducation, parce qu'on se rend compte, notamment en 1832, que, ben, en fait, la moitié des conscrits ne savent pas signer. Donc si on a la moitié des conscrits qui sont analphabètes, c'est quand même qu'il y a un problème, d'autant qu'on a une économie qui se complexifie, et qu'on a besoin que les gens aient quand même des connaissances de base. Ça va être un des grands projets de François Guizot, qui est vraiment un des hommes clés de la période, et qui en 1833 fait une loi très importante pour l'éducation en France. Cette loi Guizot rend obligatoire la présence d'une école dans toutes les communes de plus de 600 habitants. École pour garçons évidemment, la scolarité des filles, on va légiférer un peu plus après, mais les garçons sont la cible principale. Et puis, surtout, une école d'instituteurs par département, pour là vraiment être sûr d'avoir un bon encadrement. Alors, on reste sur une école qui, évidemment, n'est pas laïque. Au contraire, pour Guizot, il faut qu'il y ait une part d'enseignement religieux. Alors Guizot est protestant, donc pour lui c'est pas un enseignement dogmatique, protestant, catholique, c'est pas grave, simplement il considère que la morale chrétienne est quand même nécessaire, et que vraiment c'est dans un but moral. Il considère que l'éducation a ce but de moralisation. On n'est pas là dans l'école émancipatrice qu'essaiera de mettre en place la Troisième République, avec beaucoup de nuances et beaucoup de contre-exemples, on est vraiment là dans l'idée qu'il faut au contraire créer un fondement de morale chrétienne, et que les gens doivent apprendre des savoirs basiques, et rien de plus, hein. Faut pas non plus aller trop loin, et que seulement les plus méritants pourront ensuite s'élever. Mais vraiment, il faut donner cette acquisition de connaissances de base, et de ce point de vue, l'école de Guizot fait un travail formidable, parce qu'à la fin du régime, on a deux fois plus d'enfants scolarisés qu'au début. Et donc, clairement, ça, puis ensuite d'autres lois prises sous le Second Empire, vont vraiment poser des bases que va venir chapeauter l'école de Jules Ferry, mais l'école de Ferry n'est pas une révolution qui vient de nulle part. Plus largement, on a une période qui est vraiment marquée par une sensibilité paternaliste, c'est-à-dire que on a toutes ces élites-là qui regardent la pauvreté avec tristesse, hein, souvent, y a une vraie conscience que la condition des pauvres est mauvaise et que c'est pas bien, mais on considère déjà que souvent c'est parce qu'ils l'ont bien cherché, hein, qu'ils sont un peu trop immoraux, que peut-être ils succombent trop dans l'alcoolisme, donc il faut les aider. Par exemple, on va essayer de les encourager à faire des économies, on va essayer de les encourager à trouver de meilleurs emplois, etc. Mais surtout, il faut pas remettre en question le système qui crée les inégalités. Simplement, on essaie de compenser ses pires torts, de recourir à de la charité, par exemple. Ça, on y recourt pas mal à l'époque. D'autant que la charité, elle a l'intérêt de permettre de choisir envers qui on est charitable. On est charitable envers les méritants, et puis ceux qui méritent pas, ben, on les laisse crever. C'est une philosophie qui reste très présente dans la droite d'aujourd'hui, qui a une grosse filiation orléaniste, et pas que à droite d'ailleurs, donc c'est quelque chose qui a un lourd héritage, hein. Mais cette philanthropie, elle passe aussi par des mesures tout à fait concrètes, hein, il faut pas croire qu'on est complètement dans juste les bons sentiments, c'est-à-dire que par exemple, on va avoir des grandes études menées sur l'état de l'industrie textile, et puis on va découvrir que vraiment le travail des enfants, c'est quand même trop, là. Et donc, au début des années 1840, on va avoir des législations sur le travail des enfants, pour le limiter, l'interdire pour les plus jeunes enfants. Sauf que bon, comme on se donne pas les moyens de mettre en place notamment des inspecteurs du travail assez efficaces, bon ben oui, on légifère, mais dans le fond, c'est pas forcément appliqué. On va réfléchir aux prisons aussi, qu'on va essayer de réformer pour les rendre plus humaines, on va faire disparaître un certain nombre de peines infamantes. On a par exemple cet aliéniste Esquirol qui va travailler sur la question des hôpitaux psychiatriques, et qui va poser en fait le cadre législatif de l'hôpital psychiatrique jusque dans les années 1990, donc pour plus de 150 ans quand même. Alors évidemment, on est dans quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait critiquable, parce que c'est complètement obsolète et daté, mais qui pour l'époque manifeste quand même un progrès par rapport au traitement des handicapés mentaux jusque-là. Donc y a quand même cette volonté-là, hein, d'un progrès. Plus largement, donc, on a un régime qui encourage pas mal d'évolutions économiques et sociales, sans forcément les forcer, mais en tout cas qui essaie d'encourager ça, même s'il y a des limites qui ne vont pas être franchies. Par exemple, le divorce, on revient pas, on le remet pas en place pour l'instant, c'est trop compliqué. L'esclavage, on y réfléchit beaucoup, on essaie de voter des projets qui pourraient un petit peu en limiter la prolifération, par exemple le fait que les esclaves qui viennent en France sont émancipés instantanément, le fait que bon, on va essayer de faire en sorte que les enfants d'esclaves, peut-être, on arrête, et puis en fait ça c'est des lois qui ne passent pas forcément. Donc on essaye, mais il y a trop de résistance, donc on n'avance pas, il va falloir attendre 48 pour ça. Mais ce que ça veut dire quand même, clairement, c'est que c'est un système qui est contesté, qui n'est pas approuvé par toute la société comme ça, on en débat. Donc il y a cette aspiration-là. Et puis plus largement, économiquement, c'est pas parce qu'on est totalement libéral économiquement qu'il y a aucune limite à ce libéralisme et que l'État ne s'implique pas. Déjà parce que on est libéral, ok, à l'intérieur, mais on tient quand même beaucoup au protectionnisme, même s'il y a des théoriciens qui considèrent que le libre-échange permettrait d'améliorer la concurrence, et du coup, d'améliorer les techniques au sein de la France, bon, la plupart des industriels français et des entrepreneurs français préfèrent le protectionnisme pour se protéger du marché, notamment britannique. Donc il y a des débats là-dessus. Et puis l'État s'implique quand même beaucoup dans des grands travaux. Ça, on va avoir énormément de grands travaux pour les infrastructures, notamment les routes, les canaux, ce genre de choses. J'en reparlerai aussi dans l'épisode final de cette série. Donc, il faut pas croire qu'on est dans une période de stagnation, au contraire, on a vraiment une période où on a une implication énorme du régime, parce qu'on a un régime bourgeois, qui du coup s'intéresse beaucoup aux intérêts bourgeois, c'est sûr, hein, beaucoup moins au reste, mais du coup qui, quand même, est actif. Ça, il faut pas le négliger. On a donc un régime actif, et qui, comme je vous l'ai dit, à partir du milieu des années 30, commence à se stabiliser, et à dériver vers l'autoritarisme, on a même parfois pu parler de dictature libérale. Et là, il y a un problème dans cette stabilisation, c'est la place du roi. Parce que Louis-Philippe est un roi compliqué. Déjà parce que sa légitimité, elle n'est pas évidente, hein, après tout, il est issu d'une sorte de coup de force, en tout cas, il n'a pas de légitimité dynastique, même s'il essaie de se la fabriquer, et puis il tient sa légitimité du Parlement, d'une révolution populaire, on a pu parler du fameux roi des barricades, sauf que maintenant, ces mouvements populaires, il les réprime, donc il faut qu'il se détache de cette image-là, il veut incarner l'ordre, donc il peut pas rester le roi des barricades. Et puis il y a ce problème-là, que est-ce que ça doit être un roi soumis au Parlement, ou un roi actif? Et ça, au sein même de la résistance, finalement, il y a des désaccords. Par exemple, on a quelqu'un comme Thiers, qui est plutôt la frange gauche de ce mouvement-là, et qui du coup considère que les pouvoirs du roi doivent être limités. Il résume ça par l'idée que le roi règne, mais ne gouverne pas. Alors que, du côté de Guizot, par exemple, le trône ne doit pas être une chaise vide, il faut donc que le roi ait un vrai impact sur tout ça. Et Louis-Philippe lui-même dit, avec ses propres mots, hein, qu'il veut mener le carrosse d'une certaine manière, qu'il veut conduire. Donc, il va tout faire pour affirmer son pouvoir. Clairement, Louis-Philippe, qui avait une image de roi libéral, de quelqu'un d'assez souple finalement avant d'arriver au pouvoir, se rigidifie beaucoup une fois au pouvoir, et y prend beaucoup goût. Et donc c'est vrai qu'à une époque où certains commencent même à se dire, après tout, si on a une monarchie qui tient presque de l'élection, pourquoi on passerait pas carrément à une forme de république bourgeoise élective? Bon, puis d'autres disent « ouais, mais république, ça impliquerait tôt ou tard le suffrage universel, donc non », mais en tout cas, la place du roi est quand même de plus en plus discutée, il est de moins en moins sacré, et ça, ça l'embête. Donc il va devoir se créer une légitimité la plus forte possible, et il doit la créer de toutes pièces. Et ça, ça va passer notamment par le rapport à l'histoire. Louis-Philippe est un roi qui va beaucoup faire pour l'histoire, et notamment avec l'aide de Guizot, Guizot qui est lui-même historien, et qui s'intéresse beaucoup à toutes ces questions, et qui fait beaucoup pour la préservation du patrimoine à cette époque, on est vraiment dans une époque où on commence à avoir toutes ces histoires de préservation du patrimoine, le rôle de quelqu'un comme Mérimée par exemple, et puis on commence aussi à beaucoup se pencher sur la question des archives, de leur conservation, tout ça. Et Guizot joue un énorme rôle là-dedans, il faut vraiment pas négliger, c'est un historien passionné, et qui s'investit beaucoup là-dedans. Et donc, c'est comme ça qu'on va avoir ce grand projet de musée de l'histoire de France à Versailles, puisque Versailles va rouvrir, mais n'est plus un palais, mais le palais de l'histoire de France, un palais à toutes les gloires de la France, c'est une inscription que vous pouvez encore voir aujourd'hui sur le pavillon du Four et l'aile Gabriel à Versailles, parce qu'il y a ce projet muséal-là. Et donc on va trouver, par exemple, dans l'aile Nord, des salles consacrées à différentes peintures historiques, et notamment à l'histoire des croisades, et là avec pour but de réunir la France autour de cette histoire-là. Et puis surtout, vous allez dans l'aile du Midi, et vous avez cette grande galerie des batailles, avec des tableaux monumentaux qui représentent toutes les grandes batailles de l'histoire de France. De Clovis, avec la bataille de Tolbiac, jusqu'à Napoléon avec la bataille de Wagram. Et vous avez aussi Valmy, Poitiers, tout ce que vous voulez. Et ça c'est important, parce que ça veut dire qu'on réunit, effectivement, toutes les gloires de la France. Celle de la monarchie, celle de l'Empire, et même celle de la Révolution. Toutes ces Frances irréconciliables, Louis-Philippe essaie de les réconcilier dans cette histoire unie. Et à vrai dire, Louis-Philippe est bien placé pour ça, parce que Valmy, je mappe, il y était, c'est des batailles révolutionnaires où il a combattu, du côté des révolutionnaires. Ensuite il s'est barré, mais il peut se revendiquer de cet héritage-là. Et puis il peut récupérer l'héritage napoléonien. Après tout, en plus, ça coûte pas bien cher, parce que Napoléon II est mort, donc ce danger-là est éliminé. Bon, il y a bien le neveu qui fait parfois chier, mais enfin, on peut faire sans. Et donc, il y a aussi cette récupération de l'héritage napoléonien. On finit l'Arc de Triomphe. Et en 1840, on fait revenir les cendres. Et donc il y a cette cérémonie en grande pompe. Donc on a une monarchie de Juillet qui récupère tous les héritages du passé. Et ce faisant, elle pose les bases d'un roman national, qui ensuite va être repris beaucoup par la Troisième République, parce que par exemple, si vous regardez ces tableaux de la Galerie des Batailles, eh ben vous avez les ingrédients ensuite de grandes représentations de tout un tas de choses qu'on retrouvera dans les manuels de la Vis, par exemple, et puis même dans des manuels scolaires beaucoup plus récents, donc vous avez là toute une iconographie qui nous touche encore beaucoup. Donc le programme historique de Louis-Philippe, c'est quelque chose d'extrêmement important pour essayer de ressouder finalement une nation éclatée. Paradoxalement, cette œuvre historique de la monarchie de Juillet, ça va donc être une de ses plus durables, mais il faut aussi noter que l'histoire, c'est un moyen d'expression des opposants. J'aurai l'occasion de vous en reparler, là aussi, dans la dernière vidéo de la série, où on abordera tout ça sur un angle plus culturel et social, mais Les opposants, des gens comme Michelet par exemple, vont aussi invoquer l'histoire pour défendre leur propre vue. C'est pas nouveau, mais c'est vrai que la monarchie de Juillet en joue énormément. Alors on a un régime un peu bancal, mais un régime qui apprend notamment beaucoup le parlementarisme, parce que on va avoir là un âge d'or de l'éloquence parlementaire, on parle beaucoup à la Chambre, et on va avoir un apprentissage aussi d'une forme de démocratie très restreinte évidemment, mais qui est quand même un apprentissage qui va se transmettre. C'est un apprentissage politique. Alors il faut poser un certain nombre de bases. Déjà rappeler que, puisqu'on est au suffrage censitaire, on a des élections qui se jouent en petit nombre de personnes. D'une certaine manière, tout le monde se connaît. Le résultat, c'est que c'est des élections qui ne se font pas beaucoup autour des idées elles-mêmes, et beaucoup plus autour des personnes. On vote pour des réseaux d'influence, finalement. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de parti. Les partis, ça viendra beaucoup plus tard. Les programmes, ça leur est reproché parfois, hein, de ne pas avoir d'idéologie fixe. On a des grandes tendances politiques, mais on a beaucoup de gens qui fluctuent d'un bord à l'autre, d'un endroit à l'autre. On a d'ailleurs ce qu'on appelle le tiers-parti, qui est une espèce de marée parlementaire où les gens votent dans un sens, dans l'autre. Tout ça entraîne des combinaisons, des débats, et c'est pour ça que c'est un âge d'or de l'éloquence, parce que on peut, avec quelques déclarations, foutre par terre le gouvernement. On peut réussir comme ça à dresser une coalition petit à petit, à coup de grands discours, à faire venir un vote dans un sens ou dans l'autre, par la parole. On est vraiment dans un monde qui nous est de moins en moins familier, c'est vrai, parce qu'on est habitué à ce que le Parlement relève plus de la chambre d'enregistrement, quand même. Donc on a ces aspects-là du parlementarisme qui sont très importants, même si ça peut aussi créer un phénomène un peu de girouette, et aussi une certaine corruption, il faut pas se le cacher, puisque là aussi on est dans des réseaux très étroits, donc forcément ça joue beaucoup. De ce fait, on va avoir une très grande instabilité gouvernementale, qui n'est que de façade cependant, puisque dans les 10 premières années de la monarchie de Juillet, pas mal de gouvernements vont se succéder, je vais pas vous en faire l'histoire détaillée, vous pouvez aller regarder par exemple sur Wikipédia pour vous faire une idée, mais il y a des gouvernements qui ne durent parfois que quelques mois, voire quelques jours dans les pires cas, on est donc pas bien loin de ce qu'on va retrouver sous la Troisième République. Et c'est à comparer avec la période qui sera l'objet du prochain épisode, hein, les années 1840-1848, où là, on a un gouvernement qui ne bouge plus. Mais cette instabilité parlementaire, enfin, cette instabilité gouvernementale plus exactement, elle doit pas vous tromper, parce que dans les faits, les ministres sont quasiment tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que oui, on change de gouvernement, on change de tête, mais à l'intérieur, parfois, même si la tête a changé, les ministres restent les mêmes, éventuellement, et changent de poste, ce genre de choses, mais on a des combinaisons très fluides, et il faut donc garder en tête que la monarchie de Juillet, ce sont vraiment quelques dizaines de personnes qui vont se partager le pouvoir et se relayer régulièrement. Et on a notamment ce fameux triumvirat entre Thiers, Breuil et Guizot, qui au début est assez puissant, hein, comme triumvirat, sont vraiment trois hommes qui se partagent un peu trop le pouvoir aux yeux de Louis-Philippe, qui joue aussi son propre rôle, parce que je vous ai dit, Louis-Philippe, il tient au pouvoir quand même, il tient à avoir un impact sur les affaires. Et donc, eh bien, il va s'amuser à foutre la merde entre tous ces gens-là, pour pas que ses ministres soient trop puissants. Donc il n'hésite pas à glisser des petits trucs pour vraiment alimenter les rancœurs. Et par exemple, une technique qu'il va utiliser, c'est en appeler un à la tête du gouvernement. C'est ce qu'il fait en 36, en appelant Thiers. Il appelle Thiers, et du coup, Guizot, là, d'un coup, se rend compte qu'en fait, eh ben, il n'est pas si copain avec lui, parce que Guizot est plutôt sur la frange droite, très conservatrice, hein, de la résistance, alors que Thiers est plutôt sur des positions qui tendent plus vers le centre-gauche, notamment sur le pouvoir du roi, et puis aussi sur la politique étrangère. Guizot est très sur des positions prudentes, attention, il faut pas de guerre, il faut vraiment que la France reste un pays de paix, prudence. Thiers, lui, il est plus offensif, et donc en 36, par exemple, son gouvernement va tomber, parce que y a des troubles en Espagne, Thiers voudrait aller au secours des libéraux, et Louis-Philippe dit non, 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 on s'implique pas, et du coup, il vire Thiers. Ensuite, Thiers va appeler un de ses fidèles, Mollet, et Mollet va réunir petit à petit autour de lui, notamment après les élections de 37, un cabinet qui est vraiment, entre guillemets, à la solde de Louis-Philippe. Ce qui va pas plaire aux autres, hein, ce qui va pas plaire aux autres, qui dénoncent le pouvoir du roi, donc évidemment toute la gauche va se monter, contre ce cabinet Mollet. Et c'est là qu'on va avoir un épisode parlementaire très intéressant, ce qu'on appelle la coalition anti-Mollet, parce qu'on va y retrouver donc ce qu'on appelle la gauche dynastique, c'est-à-dire les héritiers du mouvement. derrière notamment la figure d'Odilon Barrot, qu'on retrouvera au moment de la Révolution de 48, donc retenez ce personnage. Donc ces gens-là qui sont dans l'opposition en permanence, parce que ben, de fait, ils n'auront jamais le pouvoir sous la monarchie de Juillet, mais qui incarnent une autre voie, plus démocratique, et qui du coup sont contre le pouvoir royal. Et ils vont s'allier aussi avec ce qu'on appelle le centre-gauche autour de Thiers, qui lui aussi, alors, ne va pas jusqu'à des positions démocratiques comme Barrot, enfin, démocratiques avec beaucoup de guillemets d'ailleurs, hein, parce que aucun n'est pour le suffrage universel, ils sont tous éventuellement pour l'élargir, et Thiers est très réticent là-dessus, mais Thiers, par contre, est pour limiter les pouvoirs du roi, et donc ils vont se retrouver là-dessus. Mais ils vont retrouver aussi Guizot, qui vient pourtant de la droite, mais qui va se joindre à eux, parce que, ben, il peut pas blairer Mollet, et qu'il aimerait bien prendre sa place. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des alliances politiques, mais qu'il y a aussi de la politique complètement politicienne et personnelle, ben là, cette coalition anti-Mollet en est le symbole, et d'ailleurs Guizot, il va s'y casser un peu les dents, parce qu'on va lui faire remarquer que quand même, il s'allie avec des méchants fauteurs de troubles. C'est un petit peu, pour vous donner un parallèle, comme si, aujourd'hui, des membres des Républicains, simplement pour essayer de parvenir au pouvoir, voter avec les Insoumis de façon systématique. Et ben du coup on leur dirait « Ah, mais vous êtes des gauchistes, vous vous alliez avec la frange révolutionnaire du Parlement !» Bon, c'est tout aussi ridicule à l'époque, hein, mais de fait, il y a ces jeux-là qui se posent. Et la coalition anti-Mollet, d'ailleurs, va finir par gagner. Guizot, par contre, ne va pas réussir à choper le pouvoir à ce moment-là. Et finalement, Louis-Philippe, qui aime bien foutre la merde, va, en 1840, rappeler Thiers, histoire de rappeler que la gauche ça marche pas, hein, parce qu'il va rappeler Thiers, donc du centre-gauche, sauf que Thiers, là, se rend compte que bon, bah en fait, les positions de la gauche sont trop à gauche pour lui, donc il veut pas aller dans cette direction-là, donc il veut essayer de gouverner quand même plutôt sur du milieu, mais du coup il faut qu'il passe quand même pour relativement radical, donc il se dit « ben je vais miser sur la politique étrangère ». Et à l'étranger, il y a en ce moment des tensions entre l'Égypte et l'Empire ottoman. Et donc Thiers se dit « ben on va soutenir l'Égypte ». Sauf que l'Empire ottoman est soutenu par les Britanniques. Donc on commence à se dire « ça va peut-être dégénérer sur une guerre ». Puis alors Thiers, lui, l'idée de guerre, ça lui va, il est en train de construire des fortifications autour de Paris, en plus c'est bien pratique si Paris s'agite, donc comme ça c'est tout bénef, mais il perd pas l'idée d'une potentielle guerre. Alors ça, ça plaît pas du tout à la droite, ça plaît pas du tout à la résistance, et ça plaît pas du tout au roi. Et donc finalement, à la fin de 1840, là encore, il a fait que quelques mois au gouvernement, Thiers se casse à nouveau les dents, cette fois-ci définitivement sous la monarchie de Juillet, et le pouvoir va passer dans une combinaison bien conservatrice, alors officiellement c'est le maréchal Soult qui prend le relais, dans les faits c'est son ministre des Affaires étrangères, Guizot, qui cette fois-ci a vraiment les pleins pouvoirs. Guizot va gouverner dans une certaine entente avec Louis-Philippe, là on va vraiment avoir un régime qui s'est complètement stabilisé, puisque cette combinaison gouvernementale, je vous dis, va durer jusqu'en 47, et en 47 Guizot va carrément prendre la tête du gouvernement. Et donc finalement, ben là, s'ouvre une nouvelle période de la monarchie de Juillet, une monarchie qui s'est totalement stabilisée, et en fait, peut-être même un peu trop. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.